Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier d'être si nombreux ce soir au Salon Albert Mola pour la présentation du livre « Le serment sur la chute de Rome » qui sera présenté par Jérôme Ferrari, lauréat du prix Goncourt 2012. Je tiens à remercier M. Denis Mola et toute son équipe de me permettre de dialoguer avec vous et d'une manière plus générale de dialoguer avec un certain nombre d'écrivains contemporains qui comptent parmi les plus importants. Monsieur, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a là aucune formule de rhétorique et de politesse. Il me semble, parce que je vous lis, que vous êtes en train de construire et d'élaborer une œuvre. Le sermon sur la chute de Rome est votre 7e roman. Vous avez publié votre premier livre en 2001, Variété de la mort, Aleph Zéro en 2002. Et puis ensuite, quasiment chaque année, vous nous avez donné un beau livre. Dans le secret en 2007, Balco Atlantico en 2008, Un dieu, un animal en 2009, Où j'ai laissé mon âme en 2010, nous en parlerons peut-être, et ce livre qui vous a permis d'obtenir le prix Goncourt. La presse a dit de ce livre qu'il était un roman augustinien. Je sais, parce que j'ai lu vos déclarations et je vous ai entendu, que vous tenez beaucoup à ce que l'on reçoive vos livres comme étant du côté de la littérature, du côté du roman. Vous êtes un admirateur du roman russe, de Dostoïevski, et pas seulement de lui. Et vous avez l'habitude de dire que le roman vous permet de vous interroger, de poser un certain nombre de questions qui concernent la métaphysique, un mot dont on a perdu l'habitude de l'emploi. Alors j'ai envie de vous dire que les femmes et les hommes postmodernes que nous sommes, nous savons que les civilisations sont mortelles. La Première Guerre mondiale nous l'a appris et Paul Valéry l'a tonné. Nous savons que l'humanité est elle-même mortelle. La Seconde Guerre mondiale nous l'a enseigné avec les camps de la mort, avec Hiroshima et avec Nagasaki. Nous savons que les individus que nous sommes aujourd'hui, nous nous mirons dans le simulacre d'une surhumanité nietzschéenne que diffusent les écrans plats de la société de l'information. J'ai envie de connaître votre point de vue sur mon interprétation de vos livres, que je lis avec certaine attention. On a l'habitude de dire que vous êtes désormais le romancier de la fin des mondes. Je trouve que c'est un peu réducteur. Il me semble que vous êtes, avec d'autres peut-être, une voix, et une voix qui ne cesse de nous rappeler notre finitude, et que vous êtes une voix qui clame dans le désert. Alors, évidemment, je fais allusion à un certain nombre de choses. Est-ce que cette présentation devant le public vous gêne ? Comment la recevez-vous ?
Alors, j'y souscris tout à fait dans sa partie négative. J'ai aussi lu beaucoup cette histoire de fin des mondes, qui me paraît être un malentendu, peut-être d'ailleurs le malentendu qui a profité commercialement au livre. Parce que effectivement, moi, quand j'ai écrit le roman, j'étais pas du tout dans une veine apocalyptique quelconque. Et je parle bien de fin des mondes, mais pas dans ce sens-là. Et je pense par contre que le livre a pu rencontrer un écho dans des préoccupations moroses de l'Europe occidentale et donc de nous-mêmes, où on porte pas un regard sur nous plein d'optimisme. Mais c'était pas mon propos, parce que les mondes dont il est question dans le serment sur la chute de Rome ne sont pas, si je parle pas du cosmos, mais quasiment du concept métaphysique de monde, et donc de toute une série d'ensembles signifiants qui ont un horizon commun, et puis qui naissent et qui meurent. Et donc ça me paraît certain. Et par ailleurs, oui, je dois reconnaître que l'idée de la finitude, c'est quelque chose qui me qui est assez obsessionnel chez moi. Et donc, je reconnais la pertinence de votre analyse.
Bon, je ne suis pas là pour recueillir vos lauriers. Vous êtes là pour nous expliquer, si vous en avez envie, ce que vous faites. Je trouve que votre voix est singulière dans le paysage littéraire contemporain, dans la mesure où vous abordez sans fard un certain nombre de questions essentielles liées au sens. Je veux dire par là que je n'ai pas à vous interroger pour savoir si vous croyez en Dieu ou pas. Je peux, moi, dire, pour que vous puissiez me situer, que je suis un mécréant. Et le mécréant que je suis se reconnaît dans le questionnement de votre livre, Le Sermon sur la chute de Rome, comme de l'ensemble de votre œuvre, dans la mesure où, me semble-t-il, vous montrez avec beaucoup de force que la question de l'existence de Dieu n'est en soi est un problème, je vais peut-être choquer, mineur, parce que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, les créatures que nous sommes confrontés à son silence.
Je pense vraiment que la question du sens et de la transcendance est effectivement complètement indépendante de celle de la croyance en l'existence d'un Dieu personnel ou autre. Le simple fait que la question se pose indique qu'elle est suffisamment importante pour être plus importante même que la réponse qu'on peut y apporter. Et donc ma position religieuse est celle du pur agnosticisme. Et pourtant, c'est des questions qui m'ont toujours intéressé. Je ne crois pas du tout au surhomme nietzschéen, pas du tout. Je ne crois pas du tout à la possibilité d'une vie humaine sans aucun horizon de sens, illusoire ou pas. D'ailleurs, c'est pas vraiment la question. Et ça m'intéresse beaucoup d'explorer ce qui se passe quand ce qui fait sens se manifeste justement par son absence. Et je pense que avec le monde, l'absence, c'est un des grands thèmes du sermon sur la chute de Rome, puisque le roman commence comme ça, sur l'analyse d'une photo dans laquelle le personnage principal voit d'abord non pas ce qui est, mais ce qui y manque, ce qui est absent. Et c'est quelque chose qui est sans doute un des thèmes que j'ai le plus creusé dans mes romans, et je pense plus particulièrement à Un Dieu, un animal, par exemple, où c'est vraiment ça.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement pour le public, beaucoup des personnes présentes vous ont lu, mais certainement pas toutes. Votre roman commence ainsi, comme témoignage des origines, comme témoignage de la fin. Si vous me permettez, on y reviendra tout à l'heure. Il y aurait donc cette photo, prise pendant l'été 1918, que Marcel Antonetti s'est obstiné à regarder en vain toute sa vie pour y déchiffrer l'énigme de l'absence. C'est ce que vous dites. Il me semble que l'ensemble de vos romans, et celui-ci tout particulièrement, les univers diégétiques de vos livres sont pétris de la question de ce Dieu caché, de ce Dieu qui s'est retiré de sa création, qui est absent de sa création, et dont l'amour nous est inaccessible, dont la manifestation de l'amour nous est inaccessible. Ce qui fait que vos personnages, et je viens au sermon sur la chute de Rome, vos personnages traversent le siècle et les temps en étant aveugles, totalement aveugles. Et par exemple, le sermon sur la chute de Rome tresse trois intrigues. Il y a la traversée du siècle de Marcel Antonetti, il y a cette histoire de ces deux jeunes gens qui ont suivi des études de philosophie, Mathieu et Libéro, qui décident de reprendre un bar dans un village en Corse, on y reviendra, et l'arrière-fond, évidemment, les fameux quatre sermons d'Augustin à Hippone annonçant la chute de Rome. Vous tressez ces trois intrigues. Mais ce qui me semble absolument intéressant dans ce livre, c'est que vos personnages sont trimballés par l'histoire. Ils traversent le temps en n'y comprenant pas grand-chose.
Et spécialement pour le personnage de Marcel, sa vie entière se déroule sous l'autorité de l'absence de sens et commence comme ça. Je ne crois pas avoir eu à beaucoup torturer l'histoire pour ça. Je suppose que la fin de la guerre de 14 a effectivement marqué la fin d'un monde rural en Europe. Et je sais quasiment intimement que la disparition de ce monde chez moi en Corse, et c'est ça qui m'intéressait, n'a pas été suivie par l'émergence d'un monde nouveau. Et qu'on peut quasiment regarder les 40 ou 50 années qui ont suivi comme un désert, comme étant des années désolées. Et ça, ça relève pas du tout d'une analyse intellectuelle, mais plutôt du contact avec la génération de mes grands-parents, où j'ai vraiment senti que c'était comme ça qu'ils avaient vécu le pays de leur jeunesse, avec sans doute la certitude que non seulement le bien-être matériel, mais aussi le sens de l'existence ne pouvait se trouver qu'ailleurs. Et les gens de cette génération ont souvent eu, à cause de ça, beaucoup de mal à comprendre l'attachement quasiment passionnel qu'après on pouvait porter à la Corse, qu'ils aimaient pourtant quand même, hein, mais où ils voyaient beaucoup de... où ils avaient beaucoup de mauvais souvenirs et des souvenirs de désert. Et bien sûr, à partir de là, ce qui m'intéressait dans le roman, c'est d'imaginer un personnage qui ne s'en sort pas de ça, hein, qui, en partant d'une terre désolée, ne trouve partout où il va que de la désolation.
Et alors, évidemment, vous parlez de votre pays, vous parlez de la Corse. Dans vos livres, il en est souvent question. Mm-hmm. Je crois savoir que parfois vos lecteurs corses sont un peu pris à rebrousse-poil, trouvent que vous ne parlez pas très bien du pays, de la Corse. Moi qui ne suis pas corse, je suis méditerranéen, mais je ne suis pas corse. Je trouve qu'il est important qu'un auteur, qu'un écrivain qui est en train d'élaborer une œuvre vienne de Corse, nous parle de la Corse, parce qu'il me semble que peut-être votre pays, c'est un point sensible pour la société française. Et justement, la traversée du siècle que votre personnage, que Marcel, effectue dans le sermon sur la chute de Rome, me semble-t-il, vous permet, par le biais de ce Corse attaché peut-être à une légende romantique du pays, vision romantique d'une Corse que vous rejetez. J'imagine que vous n'aimez pas beaucoup Prosper Mérimée.
D'autant que je suis originaire du village dans lequel il a rencontré Colomba.
Voilà. Donc, voilà. Il me semble que pour nous, lecteurs du continent, il importe qu'un auteur, qu'un écrivain contemporain parle de la société française par le truchement justement de l'histoire corse. Parce qu'il y a peut-être là un levier pour mettre le doigt où ça fait mal.
Alors, l'idée que les textes ont pu être accueillis un peu à prendre un peu les gens à rebrousse-poil, c'est vraiment un euphémisme très très élégant que vous avez employé. Alors le prix Goncourt m'a absous de beaucoup de choses. Et très vite, j'ai été en Corse à Noël où j'ai eu un accueil vraiment... vraiment chaleureux, mais ça n'avait pas du tout été le cas de mon premier recueil de nouvelles, et tout n'a pas entièrement changé, puisque en arrivant à Actes Sud à Paris, j'ai trouvé une lettre d'insulte d'un de mes compatriotes qui jugeait que j'avais affreusement dénaturé l'image de la Corse, et que ça devait avoir un effet désastreux sur les continentaux. Donc il y a quand même des restes, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours posé beaucoup de problèmes et à quoi j'ai, alors là, vraiment le plus consciemment du monde, pas voulu renoncer. D'abord, il se trouve que j'ai publié mon premier recueil de nouvelles quasiment en même temps qu'un de mes amis à moi, qui lui l'a fait en plus encore pire que moi, lui il l'a fait carrément en Corse, en langue corse.
Vous l'avez traduit?
J'ai traduit le recueil et je vois bien qu'à la base de notre projet littéraire, il y avait vraiment l'envie presque joyeuse et juvénile de parler un peu des choses telles qu'elles étaient et pas de faire un peu œuvre littéraire en s'occupant de la réalité et pas de l'image ou des fantasmes de cartes postales. Et c'était très très il a été très long d'arriver à faire admettre au moins à une majorité de personnes que le rôle des romanciers, c'était pas de secourir l'effort de l'office du tourisme pour faire venir les gens, y compris quand on devait dire des choses désagréables. Et la position de départ était vraiment inconfortable, parce que ça prenait les Corses à rebrousse-poil, mais qu'en même temps, au début, quand j'ai commencé à publier chez Actes Sud, hein, c'était très très difficile de faire accepter... j'allais dire, de faire lire un texte qui parle de la Corse sans que le lecteur y plaque immédiatement
ses stéréotypes.
Hein. Alors, s'il faut s'attaquer aux stéréotypes des deux côtés de la Méditerranée, ça faisait un peu beaucoup. Et puis, d'autant qu'il ne s'agit pas de les attaquer pour les nier complètement, parce que les stéréotypes ont leur pertinence. Et ils ont surtout leur puissance effective sur la réalité, parce que l'image que les gens se font d'eux-mêmes peut avoir une influence sur la manière dont ils se comportent, dont ils se comportent effectivement. Et c'est des choses que je mets en scène dans les romans, notamment sur le rapport aux armes ou des choses de ce genre-là. Et donc, cette année, une des grandes joies, entre autres, que j'ai eues avec le prix Goncourt, c'est qu'il soit donné à un roman qui parlait absolument de la Corse. Je pense que ça... Moi, j'ai vu ça comme si il y avait vraiment un pas qui avait été franchi, et que... Et même à une rapidité que j'aurais jamais rêvé.
Alors, si vous me permettez, je ne suis pas là pour me raconter, mais je vous lis et je vous ai lu avec beaucoup d'intérêt, parce que je suis méditerranéen, ça ne suffit pas. Mais comme vous, j'ai travaillé en Algérie. Et quand on vous lit... l'on s'aperçoit que le monde arabo-musulman ne vous laisse pas indifférent. Le soufisme ne vous laisse pas indifférent. Et notamment le livre que vous avez consacré à l'Algérie, où j'ai laissé mon âme, est un livre qui a attiré mon attention. Il me semble que dans le sermon sur la chute de Rome, c'est pour ça que je vous interrogeais à propos de la Corse, il me semble que l'on peut aussi... Ce n'est pas la seule entrée dans votre ouvrage, dans votre roman, mais on peut lire l'histoire de la société française contemporaine au prisme du rapport que la France a entretenu avec, je dirais, l'Afrique, avec son empire. Mmh. Et quitte à offusquer vos compatriotes, la Corse et les Corses y ont joué un rôle, et un certain rôle. Et il me semble que ce rôle est révélateur.
Un rôle absolument, absolument énorme. Je pense que dans toutes les familles corses, il doit y avoir à peu près la même mallette de photos de famille sur lesquelles la plupart des hommes jeunes pris dans les années 30 sont en uniforme. C'est évident. Moi, ma mère est née à Damas, mon père est né à Rabat. Voilà. Et je ne suis évidemment pas du tout une exception. C'est vraiment une réalité profondément, profondément ancrée. C'est peut-être... Je soupçonne un peu que c'est d'avoir un peu grandi dans cette réalité-là qui m'a donné le goût à moi-même, le goût des voyages. J'en suis sûr. La chance que j'ai eue, c'est que familialement, personne de ma famille n'était en Algérie, ce qui m'a permis d'écrire où j'ai laissé mon âme dans des conditions un peu...
Avec une distance.
Voilà, un peu sereine, sans avoir un passif affectif énorme avec lequel j'aurais eu à me débattre.
Si vous me permettez, mais nous allons tout de suite après revenir au sermon sur la chute de Rome. Je crois que le lecteur attentif qui lit « Où j'ai laissé mon âme » peut supposer que l'homme, Jérôme Ferrari, a adoré l'Algérie. Il s'est passé quelque chose dans ce pays, entre vous et...
Oui, il s'est passé quelque chose de que j'arrive pas bien à expliquer, parce que j'ai évidemment rien vécu là-bas de très spectaculaire, mais il y a quelque chose qui m'a marqué beaucoup et qui dans mon métier d'écrivain a changé énormément de choses. Ça m'a rendu une certaine fécondité. J'ai écrit beaucoup, j'ai recommencé. J'avais complètement arrêté d'écrire en arrivant en Algérie depuis 4 ans, et j'ai recommencé à écrire là-bas. Et j'ai eu. Moi, j'ai tendance à penser que ça a été vraiment ce qui m'a ouvert un peu les yeux sur le monde à un âge où j'étais déjà plus un jeune homme. Mais que, voilà, et j'ai gardé pour ce pays un immense attachement, parce que il me semble que je lui dois vraiment quelque chose. Quand j'ai laissé mon âme et sorti, j'avais un peu peur qu'il soit mal pris en France, puisque c'est un sujet sur lequel il n'y a pas encore une absolue tranquillité intellectuelle, mettons. Mais j'avais encore bien plus peur qu'il soit mal pris en Algérie. Mais ça n'a pas été le cas. J'y suis allé en 2011 pour présenter le livre. parce qu'il a été publié là-bas par un éditeur algérien, donc à des prix correspondant au marché algérien, où on ne peut pas acheter un livre 18 euros, ce n'est pas possible. Et j'ai eu la joie de voir que non.
Bien. Si vous me permettez, cela va m'autoriser à faire le lien avec le sermon sur la chute de Rome. Vous avez publié en 2009 « Un dieu, un animal » et j'ai vu dans la presse, dans les déclarations que vous avez faites, que vous aviez déjà l'idée du sermon sur la chute de Rome, 2009. Mais que, en quelque sorte, « Où j'ai laissé mon âme » s'est imposé à vous. Vous avez donc écrit celui-ci, et ce n'est que après, vous êtes revenu au sermon sur la chute de Rome.
Tout à fait.
Vous pouvez nous éclairer, d'autant plus qu'il y a une intertextualité évidente. André de Gorce, qui est l'un des protagonistes principaux de Où j'ai laissé mon âme, apparaît dans le sermon sur la chute de Rome.
Et Marcel Antonetti, qui est le personnage principal du sermon sur la chute de Rome, est un peu à l'arrière-plan dans Où j'ai laissé mon âme.
Il y a Jeanne-Marie aussi.
Il y a, oui. Et oui, donc j'étais en train de travailler sur le sermon sur la chute de Rome, et puis comme dans tous mes romans, il y a plusieurs fils narratifs, et tout mon travail préalable, qui peut être assez long, consiste à les disposer, à les agencer de manière précise. Et tant que j'ai pas cet agencement-là, je ne peux pas écrire. Et donc j'étais en train de réfléchir à tout ça quand je suis tombé sur le... Quand je suis tombé sur le documentaire de Patrick Rothman, L'ennemi intime, et donc j'avais été très frappé par deux témoignages de ce documentaire, et là, sans vraiment décision de ma part, il y a vraiment un roman qui s'est construit très 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 vite et que j'ai dû écrire. Que j'ai dû écrire tout de suite, mais sans oublier mon projet préalable. Alors, pour ne pas l'abandonner totalement, je suppose, j'ai conçu la famille du capitaine de Gorce en sachant qu'elle serait réutilisée dans le sermon sur la chute de Rome, et je savais parfaitement que Marcel serait le personnage principal. Alors, il est juste présent, donc j'ai laissé mon âme, parce que le capitaine de Gorce est allégé en 1957 et il reçoit des lettres de ses parents, de sa femme et de son beau-frère Marcel, qui est en Afrique.
Qui est au Niger.
Qui est en pleine crise d'hypocondrie et qui la breuve de lettres quotidiennes pour lui expliquer qu'il va mourir et de quoi, et puis qu'il a guéri, mais qu'il va mourir le lendemain.
Donc,
je savais qu'il serait hypocondriaque, je savais qu'il y aurait nécessairement dans le roman suivant un chapitre qui serait consacré à l'Afrique et aux maladies. Et voilà comment ça s'est passé. Et après, l'intertextualité s'est encore trouvée renforcée, parce que quand j'ai recommencé à écrire le sermon sur la chute de Rome, j'ai réutilisé le bar que j'avais dans Balco Atlantico, ce qui m'a permis aussi de reprendre des personnages.
Si vous me permettez, c'est ce qui me permet, au modeste professeur que je suis, de dire que vous élaborez une œuvre.
Mais j'aime bien l'idée que chaque roman soit un agencement d'éléments cohérents, et puis que l'ensemble des romans puisse former un agencement de niveau supérieur. J'aime bien les déplacements de perspectives avec un petit nombre d'éléments.
Alors, j'ai vu une vidéo de vous dans laquelle vous dites, bon, grosso modo, mon travail d'écrivain, c'est de réfléchir à ce que c'est qu'un monde. Bon. Et je ne vais pas vous imiter, je ne suis pas un imitateur, mais grosso modo, avec un geste, d'ailleurs, comme font les Méditerranéens, vous expliquez qu'un monde, c'est un ensemble comme ça, avec des choses agencées. Bon. Alors, je voudrais en savoir un peu plus, parce que j'étais frappé, c'est net, dans le sermon sur la chute de Rome, mais quand on lit avec attention vos ouvrages, le syntagme apparaît. Dans le meilleur des cas, le monde sont des limbes. C'est un entre-deux.
Oui, les limbes sont très très importantes. mais ça, je ne m'en suis pas rendu compte. Alors, j'aime bien quand je me rends compte de choses qui sont présentes dans mes textes et auxquelles je n'avais pas le moins du monde pensé. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était cet été, j'ai fait un entretien pour le Monde des Livres. Et le journaliste me dit, c'est un livre où le thème le plus important, ça, c'est la bêtise. on va parler de ça. Et j'ai dit, non, c'est pas... Et alors, il m'a montré mon livre, et j'ai dit, oui, ça semble assez... et c'est comme ça qu'on a pu faire, l'entretien sans que je m'en sois rendu compte. Et donc, oui, là aussi, j'ai un ami qui avait déjà attiré mon attention sur les occurrences du terme limbe. Mettons que ce sont en tout cas des mondes imparfaits, parce que c'est pas parce que je ne veux pas faire des romans à thèse philosophique, mais c'est pas pour ça que je trouve pas plein d'idées en philosophie, et spécialement chez Leibniz. C'était le rôle de sa présence dans le roman, c'est pas de l'opposer du tout à Saint-Augustin, je vois pas d'ailleurs ce que ça pourrait vouloir dire, mais c'est parce que quand même, s'il y a quelqu'un qui s'est demandé ce que c'était qu'un monde, c'est bien Leibniz. Et puis j'avais trouvé cette phrase qui est très très juste dans un de ses textes, où il dit qu'après tout, on peut considérer que les choses qu'on appelle les romans sont aussi des mondes possibles.
Si vous me permettez d'ailleurs, je le fais avec beaucoup de modestie, parce qu'il m'arrive de lire de la philosophie, mais je n'enseigne pas. Le lecteur du sermon sur la chute de Rome sera confronté à une autre image de Leibniz que nous avons, parce que souvent, lorsqu'on évoque Leibniz, on a la vision qu'en a donnée Voltaire.
Voltaire, oui.
Donc vraiment caricatural, et ce n'est pas du tout votre cas.
Ah oui, une de mes missions prioritaires au lycée, c'est de combattre cette vision dans les classes de première, notamment. Voltaire n'a pas été très très honnête avec Leibniz. Enfin, il n'avait pas à l'être, hein, mais bon. Non, il y a quelque chose de puissamment esthétique dans la philosophie de Leibniz. C'est une énorme réflexion. Et moi, ce qui m'intéresse, et qui à mon avis beaucoup à voir avec ce que c'est que de construire un roman. Parce que le dieu de Leibniz, il peut faire ce qu'il veut, mais pas complètement. Il peut pas être illogique. Il peut pas faire en sorte que deux choses qui sont pas possibles en même temps le deviennent. Donc il est quand même tenu à ce que le monde du dieu de Leibniz doit avoir une certaine consistance. Et je trouve que c'est exactement ce qui se passe avec un roman, et que la liberté de l'auteur d'un roman est aussi limitée par des considérations de consistance. Tout n'est pas consistant. Et si c'est pas consistant, ça marche pas. Ça fait pas un monde. Alors, dans ces pages des essais de Théodicée, où il y a une métaphore merveilleuse et baroque, où on voit où Leibniz s'imagine une pyramide qui est infinie et qui n'a pas de base, mais qui a un seul sommet. Le sommet, c'est le meilleur des mondes possibles, celui que Dieu choisit de faire venir à l'existence. Et puis tout le reste de la pyramide, c'est d'autres mondes possibles, mais moins bons, qui sont donc laissés dans l'inexistence, et qui sont imparfaits. Et toutes les références faites au Démiurge, par exemple, dans le sermon sur la chute de Rome, sont basées là-dessus. J'ai consulté le Démiurge comme celui qui commettait le péché de faire venir à l'existence un monde imparfait.
Oui, alors peut-être pour l'assistance, vous précisez bien que le Démiurge n'est pas Dieu.
Ah non, certainement pas.
Alors vous pouvez développer brièvement.
Pour ceux qui n'ont pas lu le roman, et avec la tirade que je viens de faire, et prétendre que c'est pas des romans philosophiques, on va me rironner, mais j'espère que je pourrais convaincre que c'est pourtant exactement la vérité. Mais comment cette idée-là marche dans le roman, par exemple avec le bar. Le fil narratif du bar commence avec le départ d'une serveuse qui a depuis longtemps, qui s'appelle Ayette, et là tout s'écroule. Tout s'écroule parce que dans mon esprit, de tous les éléments qui composent un monde, il doit bien y en avoir un qui fait tenir les choses debout. C'est pas forcément le plus visible ou le plus... il est là quelque part, et si...
Une sorte de clé de voûte.
Une clé de voûte, mais alors on sait pas bien où elle est. Et là, Ayette, qui est une fille discrète, etc., est la clé de voûte.
Qui vient du Maroc, ouais, et qu'on voit apparaître dans Balco Atlantico.
Et dans le sermon sur la chute de Rome, il n'y a que son absence, justement, puisqu'elle, on ne la voit pas, le roman commence quand elle s'en va. Et donc le monde du bar s'écroule, et Libero et Mathieu qui les reprennent reconstituent un monde autour avec ce bar. Donc c'est eux qui sont qualifiés de démiurges. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de constituer un monde. Et la différence que j'ai mise, c'est que, contrairement à un créateur divin, le démiurge, c'est lui aussi un élément du monde qu'il a construit, et il subit le sort du monde qu'il a construit.
Alors justement, Je suis convaincu, vous n'avez d'ailleurs pas besoin de me convaincre, vous écrivez des romans, vous n'écrivez pas de traités philosophiques ni des essais. Il y a peut-être chez vous une pratique de l'écriture qui vous permet d'explorer des situations, d'inventer des mondes, d'inventer des personnages, de leur insuffler une vie, le temps de l'intrigue, qui ne relève pas de la spéculation philosophique stricto sensu.
Non, non, c'est sûr.
Vous expérimentez à travers des personnages que vous faites vivre, que vous faites mourir, mais vous n'êtes pas là pour... ils ne viennent pas illustrer une thèse.
Et c'est toute la différence entre la philosophie et le roman. Je suis assez... Je souscris vraiment, mais complètement, à la définition que donne Deleuze. La philosophie, c'est ce genre d'expérimentation, mais avec des concepts.
Absolument.
Et c'est, voilà, c'est ce qui définit le travail philosophique, et ce qui veut dire qu'il n'y a pas un fossé entre la philosophie et la littérature. Ce n'est pas le même type d'expérimentation et ce n'est pas le même type d'élément. On peut avoir rigoureusement les mêmes centres d'intérêt, la même sensibilité, mais dans le travail de production, la question qu'est-ce qu'un monde en elle-même, elle n'est pas plus une question philosophique qu'une question littéraire. Ça dépend de la réponse qu'on va apporter. Et à partir de là, moi je vois bien à quel point la philosophie est importante pour moi dans l'écriture des romans, mais en tant que matériau littéraire.
Ça, vous nourrissez votre écriture et votre projet littéraire de ce que vous savez, de ce que vous enseignez. J'imagine que la philosophie a une part importante dans votre vie, mais vous ne faites pas œuvre stricto sensu de philosophe. Vous êtes un romancier, vous êtes un écrivain.
Ah oui, je n'ai jamais fait œuvre de philosophe, non.
Alors, si vous me permettez, pour revenir au sermon sur la chute de Rome, peut-être par masochisme moral, j'aimerais que vous nous rappeliez le parcours de ces deux jeunes gens qui ont fait des études de philosophie, qui quittent l'université pour aller au village, reprendre ce bar. Il apparaît au lecteur que le village, avec ce point névralgique, le bar, c'est un monde mort. Vous l'avez dit tout à l'heure, la Corse rurale, cette Corse romantique n'existe plus. Et pourtant, ces jeunes gens qui quittent une université qui leur paraît rancie, j'ai un peu jubilé en vous lisant, il y a des passages assez savoureux, ils y croient, ils tentent, ils expérimentent, ils pensent être en mesure d'insuffler de nouveau la vie au village par le biais du bar.
Alors, ils n'ont pas exactement les mêmes motivations. Donc, les deux personnages sont Mathieu Antonetti, qui est le petit-fils de Marcel, et puis son ami Libero, qui est donc Mathieu est corse, et puis il a grandi à Paris. Et Libero est né, il a grandi en Corse, mais ses parents viennent de Sardaigne. Et donc, ce sont deux amis d'enfance. Et puis, et la motivation principale de Mathieu depuis le début, c'est de rentrer en Corse à tout prix. Celle de Libero, c'est pas ça. Libero rejoint Mathieu à Paris pour faire une licence de philosophie avec lui. Alors, Mathieu, dès le départ, je pense qu'on voit bien que... J'ai lu dans un article que mes personnages font de brillantes études de philosophie. On peut pas vraiment dire ça, parce que Mathieu est pas brillant du tout. Il fait des études parce que ses parents le forcent à faire des études, mais ça l'intéresse pas du tout. La seule chose qu'il veut faire, c'est rentrer en Corse. Libero, non. Libero, lui, il est brillant. Et il fait ses études, et puis ce qui lui arrive, c'est que, alors qu'il est le premier de sa famille à pouvoir faire des études supérieures, et donc à toucher ce qui, pour sa famille, est une sorte de Graal, et ben il se rend compte, à tort ou à raison, que il a réussi à faire des études supérieures dans un monde où faire ce genre d'études supérieures ne veut plus dire grand-chose. Et où donc, tout ce à quoi il attachait, lui, de la valeur, il se rend compte que ça n'en a pas. Si bien que leur décision de reprendre le bar en Corse vraiment répond à des motivations différentes. Mathieu, il le fait parce que c'est lui, pour le coup, c'est vraiment le paradis. C'est son projet absolu. Il ne pouvait pas rêver mieux. Mais Libero le fait sous le coup d'une énorme déception par rapport à la vie de l'esprit. Et je pense que dans la structure du roman, c'était important qu'ils aient des motivations très différentes et que ces motivations très différentes leur fassent faire exactement les mêmes choses, comme s'ils cheminaient côte à côte sans savoir qu'en fait, ils étaient en train de s'éloigner l'un de l'autre.
Cette structure est fréquente dans vos livres, hein. Souvent, vous clivez Je ne sais pas, enfin, je prends le risque, ce n'est pas grave d'ailleurs si vous me détrompez, mais vous ne confiez pas à un seul personnage pas la quasi-totalité des facettes du problème, mais par exemple, dans le livre sur l'Algérie, il y a André et il y a le lieutenant. Il y a là un dispositif clivé qui vous permet peut-être d'appréhender d'une manière plus précise la complexité du problème que vous étudiez, que vous analysez.
Et il est tout, c'est très très, c'est même si c'est, je pense que c'est systématique dans tous mes romans, et que ce clivage-là, il est, et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai immédiatement aimé la poésie soufie dès que je l'ai lue. Donc on a deux pôles comme ça, mais alors soit ils se ressemblent beaucoup et ce qui m'intéresse c'est de montrer à quel point en se ressemblant ils sont différents, soit au contraire. Comme dans Où j'ai laissé mon âme, il semble être vraiment très très différent, et on peut se rendre compte à quel point dans leur différence ils se ressemblent. Et ce double mouvement-là, qui est absolument pas un mouvement dialectique, c'est celui qu'on trouve dans toute la poésie soufie, spécialement chez Halaj, qui est le personnage principal d'un animal.
Tout à fait. On peut dire à l'assistance que vous connaissez vraisemblablement beaucoup mieux que moi la poésie soufie, mais l'un des, on va dire, fils directeurs de cette poésie, c'est par le verbe la restitution de l'unité. Attendu que le monde apparaît dans la dualité, dans la brisure, dans le clivage, et la voie poétique, c'est l'un des moyens de reconstituer l'unité. Il y a une unité du verbe, d'ailleurs, vous le citez dans vos livres, cette formule soufie caractéristique, « je suis la vérité », et « je suis la vérité », c'est une manière aussi de dire que je suis Dieu.
C'est tout ramené à l'unité, et le poète dont je parlais, Halaj, le fait vraiment avec une pureté, une singularité extrême. Et ça, je pense que ça renvoie aussi à ça, à d'énormes problèmes théologiques qui ont traversé toutes les religions monothéistes. Et une des solutions que je trouve magnifique et désespérante pour réconcilier l'amour de Dieu et la violence du monde, c'est de dire pour Halaj que la violence du monde est le signe de l'amour de Dieu,
oui.
Par exemple.
Ce qui, pour un lecteur postmoderne, a de quoi surprendre, qu'il soit croyant ou pas.
C'est très surprenant, oui. Comme, ouais. Et c'est ce désir insatiable d'unité, ça, il en tire les conséquences extrêmes, où le geste qui tue est un geste d'amour, où le geste par lequel on s'éloigne est le geste par lequel on se rapproche. Et je trouve ça d'une très très grande beauté. Évidemment, c'est fait en quatre vers, avec beaucoup plus de beauté et de précision que ce que je peux faire moi. Dans une explication de 10 minutes.
Alors, si vous me permettez, je voudrais vous interroger à propos de ce clivage des personnages. Vous nous dites que c'est peut-être un dispositif systématique ou quasi systématique dans vos livres. Par exemple, dans Balco Atlantico, il y a le versant des deux personnages nationalistes. Il y a Doumé, il y a Vincent. Vincent, ouais. On retrouve cela dans vos livres. Par exemple, dans Où j'ai laissé mon âme, il y a ces deux officiers de l'armée française qui sont confrontés à la question, qui sont confrontés donc à la torture. Et tous les deux la pratiquent. Simplement, il arrive un moment dans la vie de ces deux personnages où une bifurcation va se produire. André va avoir le sentiment que ce qu'on lui demande de faire, ce que les circonstances exigent de lui, termine de corrompre son âme. Il laisse son âme dans ce qu'il fait, dans cette terre. Et il y a le lieutenant qui, lui, va jusqu'au bout des actes épouvantables qu'il pose, dans la mesure où il estime que s'il n'allait pas jusqu'au bout de ses actes, il trahirait les victimes, ses propres victimes.
Et je pense que c'est aussi l'image qui se fait de sa dignité personnelle, hein, c'est-à-dire de se forcer à se mettre subjectivement en sujet souverain, en conformité avec ses actes, ce que ne fait pas André de Gorce. le mauvais clivage, à mon avis, le mauvais clivage qu'on aurait pu choisir dans le roman, qui aurait été beaucoup plus radical, mais pas intéressant, c'est, ça aurait été de mettre face à face un officier qui aurait pratiqué la torture et puis quelqu'un qui l'aurait récusé ou qui l'aurait fermement comme ça. Moi, ça me paraissait beaucoup plus intéressant, encore une fois, mais on pense qu'on va reconnaître l'esprit de ce que je disais il y a 5 minutes, d'avoir deux personnages qui sont un peu plus différents et qui, je pense que le lecteur s'en rend compte même petit à petit, finalement, font exactement les mêmes choses. Et c'est pas, alors qu'il y en a un qui se signale dès le début, manifestement, comme la figure du salaud et l'autre comme la figure du pur, j'espère qu'à la fin du roman, les deux images sont brouillées et que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça.
D'abord, l'amour qui est exprimé par l'un à l'endroit de l'autre montre bien que les deux personnages sont en position spéculaire, oui. L'un par rapport à l'autre.
C'est ça. Et puis, l'idée... S'il y avait une réflexion sur le mal moral là-dedans, je crois que une des particularités du mal moral, c'est qu'il ne se signale pas comme tel. Et voilà, une des phrases qui était vraiment importante pour moi dans le roman, c'est celle où André de Gorce découvre qu'il y a un moment où le bien et le mal deviennent indiscernables et que c'est ça le mal.
Alors, vous allez au-devant de ma question, parce que ces personnages, dans tous vos romans, sont des personnages, construits sur un principe, vous me corrigerez si vous pensez que je m'égare, sur un principe qui est celui de la réversibilité du bien et du mal, dans la mesure où les actes posés, selon le point de vue adopté, ces actes peuvent être lus, interprétés comme relevant du bien ou bien du mal. Bon. Or, en même temps, l'instance narrative, elle ne cesse de dire que le mal n'est pas le strict opposé du bien.
C'est juste, mais ce n'est pas paradoxal. Je pense que c'est justement ce genre de réflexion qui ont. C'est pas l'intérêt historique que j'avais pour ce qui s'était passé en Algérie qui m'a. Mais vraiment ça. Et si le documentaire de Rothman, ça a vraiment été quelque chose que j'ai vraiment accueilli avec stupéfaction, parce que c'était une question que je connaissais pas du tout, c'est parce qu'il souligne quelque chose d'absolument évident quand on réfléchit 2 secondes. Si il s'est passé cette pratique de la torture, c'est bien parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui la sont représentées comme étant quelque chose de bien. Et donc si c'était évidemment, et ce qui est beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus tragique dans un sens.
Il me semble que dans le sermon sur la chute de Rome, tous vos personnages sont contrastés, si vous m'accordez l'emploi de ce qualificatif, sauf un, Aurélie. Aurélie me semble avoir une trajectoire qui la différencie de tous les autres. Je me trompe ou je vous ai lu trop rapidement ?
Non, elle est très différente, effectivement. Moi, la différence, j'ai conçu comme ça. C'est Aurélie, c'est le personnage dans le roman qui a affaire à la réalité. C'est pas... On m'a demandé si j'avais voulu faire un personnage lumineux. J'étais pas du tout intéressé par des questions d'ombre ou de lumière, parce qu'elle a ses propres parts d'ombre. Mais il me semble que, alors que tous les autres personnages sont plus en prise avec leurs propres fantasmes, elle a les yeux ouverts sur la réalité.
Alors, si vous me permettez peut-être une ou deux dernières questions dans notre dialogue avant de nous tourner vers l'assistance et de permettre aux personnes qui le désireront d'intervenir et de vous interroger. Le lecteur que je suis sort de la traversée de vos livres, conforté en ce qui me concerne, mais qu'importe, sur 2 ou 3 choses. Peut-être que l'agitation dans le monde est assez vaine, presque un pléonasme, une agitation vaine, que la voix du désert, que ce soit la voix VOX ou VOIE, que la voix du désert est peut-être la plus sage. Il est difficile, après vous avoir lu, de croire encore en quelques valeurs positives. Et pourtant, il y en a une, à mon avis, vis-à-vis de laquelle vous ne vous vous ne prenez pas vos distances, c'est la loyauté. Un certain nombre de personnages, y compris des salauds, vous les présentez comme des personnages loyaux. Et peut-être que des choses m'ont échappé, mais à aucun moment vous semblez interroger cette notion de loyauté.
Ah, il me semblait...
Je vous ai peut-être mal lu. Hein.
Vous allez me montrer qu'elle est présente partout. Moi, j'ai un seul souvenir de l'emploi du terme de loyauté, c'est dans Où j'ai laissé mon âme, puisque c'est la vertu principale prônée par le lieutenant Andréani, c'est-à-dire l'officier qui torture. Mais moi, dans mon esprit, le fait qu'il fasse comme ça l'éloge de la loyauté sans s'interroger du tout, le lecteur peut peut-être se demander si c'est pas important de savoir à quoi on est loyal. Chose que récuse le personnage, bien sûr, hein, puisque c'est la loyauté en tant que telle. Je pense que moi j'avais conçu ça, il me semblait que la loyauté était une vertu de nihiliste, puisque il n'est pas idiot le personnage.
Certainement pas.
Et quand il dit qu'il est loyal et qu'il ne s'interroge pas sur loyal à quoi, c'est parce que pour lui ça n'a rigoureusement aucune importance ni aucun sens de savoir à quoi on est loyal. C'est la loyauté qui est une vertu en elle-même.
Il m'a semblé lire sous votre plume qu'il est important d'être loyal envers les siens. Il m'a semblé cela.
Oh oui, mais c'est ce que au moins dans la bouche du lieutenant Andréani, mettons que c'est une. Je le fais souvent quand je conçois des personnages. Ils poussent les choses au bout de leur logique jusqu'au point où elles deviennent un peu monstrueuses.
C'est vrai. Alors, ma dernière interrogation. Pour ce dialogue, et celle-ci. Les mondes dont vous nous entretenez sont soit morts, dans tous les cas appelés à disparaître, ils sont, au sens théologique du terme, soumis à la corruption, les hommes n'échappent pas à cette corruption, Dieu est absent, il ne se manifeste pas, et il me semble que, néanmoins, un lecteur peut tirer la conclusion suivante, c'est que, qu'est-ce que c'est qu'être homme, véritablement, c'est peut-être se confronter à l'horreur, à l'horrible, à la terreur, à cette corruption, être vraiment homme.
Sans doute, et puis le tableau que vous faites semble un peu... Bon, je peux pas le récuser, mais j'espérais qu'il y avait aussi dans tout ça l'occasion d'une grande bienveillance vis-à-vis de tout ce que vous venez de décrire. Pas d'un rejet, et que c'était même une cause de bienveillance et une cause de besoin de consolation, pour prendre un très beau titre. Comment ça s'appelle Je me rappelle plus de l'auteur. C'est Dagerman, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Et moi, je vois les deux choses en même temps.
Il me semble même qu'il y a assez souvent de la compassion.
Et je crois que le mot... Bon, faut pas que je fasse des statistiques comme ça avec mes propres textes, c'est ridicule. Mais je crois que le mot consoler est assez...
Fréquemment
employé, oui.
Bon, alors...
Merci.
En votre nom à tous, je remercie Jérôme Ferrari d'être venu à votre rencontre. Merci à vous, monsieur.
Merci.